un job 2-3 week-ends, de temps qu'ils s'aperçoivent que je suis vraiment pas bon, on va me mettre dehors, mais au moins j'aurais été en onde. Et même pendant mon parcours au collège, j'avais l'impression que je vendrais des voitures, que je ferais quelque chose d'autre, mais jamais j'aurais pensé.
Mais quand tu étais étudiant en Ontario, c'était la cité collégiale?
Avant, c'est un collège qui s'appelle le Collège Algonquin, qui maintenant est uniquement en anglais.
Oui.
Mais à l'époque, il y avait, pour la radio-télédiffusion, il y avait 3 groupes en anglais, puis 2 groupes en français.
OK. Puis ton père, t'es natif de quel endroit?
Montréal.
Montréal. Puis qui étaient les grosses vedettes de l'époque quand toi, tu disais à ton père que tu désirais faire de la radio?
D'abord, les référents étaient différents. J'ai à peu près juste écouté la radio en anglais, moi. Alors, c'était les animateurs vedettes de CKGM à l'époque, notamment un certain Marc Denis qui vient de publier un livre dans lequel il raconte toutes sortes d'histoires de radio. Et un animateur qui est un Américain qui travaillait à Montréal, qui s'appelait Ralph Lockwood, qui était très, très drôle. Et ces gens-là m'ont donné le... Lockwood m'a donné le goût d'écouter la radio et Marc Denis m'a donné envie d'en faire. Et je fais une bonne différence entre les deux parce qu'il y en avait un qui, par sa présence, en onde donnait l'impression que c'était tellement le fun que tu voulais être assis à côté de lui pour le voir travailler.
Ah ouais.
Et les grosses vedettes en français à ce moment-là étaient Jacques Proulx, qui est probablement un des plus grands animateurs de l'histoire de la radio au Québec, Serge Bélair, Paul Vincent, l'ancien...
Gilles Proulx n'était pas encore arrivé.
Non, à l'époque, il n'était pas sur le radar. C'est davantage milieu des années 80, peut-être, Gilles Proulx. Au moins une dizaine d'années après le moment où moi, je me suis intéressé. Michel Jasmin était un gros animateur à ce moment-là.
Oui.
Il n'a pas commencé à faire de la télé encore.
Non, c'est ça, parce que moi, M. Jasmin, je l'ai connu à la télé. Je ne l'ai jamais connu à la radio. Mais effectivement, il a fait une bonne tournée de radio. Est-ce qu'il aurait travaillé à Québec, Jasmin, pendant un certain temps?
Oui, au FM 93.
Oui, hein? Oui. Ouais.
Mais en toute fin de carrière, là.
OK. Donc, il y avait Proulx qui était là. Il n'y avait pas aussi un homme qui était français?
Pierre Pascot.
Pascot,
oui. C'est KVL, oui. C'était des gens qui faisaient de la radio pour un public beaucoup plus âgé que la radio que moi j'écoutais, évidemment.
Ouais.
C'était vraiment, vraiment radio pilule, là, pour faire l'image. Là, la radio s'adresse aux personnes qui ont besoin d'entendre parler un docteur là, tous les jours. Là. C'était évidemment, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire de la radio.
Non.
C'est la raison pour laquelle moi je m'étais réfugié du côté de CKGM et Chaum, là, la radio musicale avec des animateurs bien inspirants puis agréables. Okay.
Mais ton père, pourquoi il n'avait pas l'impression que c'était un avenue pour toi, la radio, alors que tu devais avoir quand même une bonne voix à l'époque, là?
Ça, c'était drôle parce que à partir de l'adolescence, on est 5 gars chez nous, et à partir de l'adolescence, 13, 14, 15 ans, on faisait rager mon père parce que quand quelqu'un appelait pour l'appeler puis il disait « Est-ce qu'on peut parler à M. Dufresne, s'il vous plaît? » Puis on disait « Lequel? »
Ah, vous aviez toutes des voix comme ça.
On avait toutes des voix semblables aussi. On avait une voix semblable à celle de notre père. Non, je pense que c'était le côté inatteignable du show business.
Okay. Alors,
et il n'y avait pas de référent. Mon père était un fonctionnaire municipal et qui était très, très terre à terre.
Ouais.
Et pour lui, la radio, c'était un domaine qui était tout simplement inaccessible. Il ne pouvait pas voir le trait d'union entre son fiston à la maison puis un studio de radio. Et compte tenu de ce que je me suis moi-même fait dire dans des stations quand j'ai cherché de l'information, je comprends qu'il n'y avait pas d'idée, là.
OK. Puis là, tu avais 15 ans, tu cherchais une station de radio qui pouvait t'accueillir. Tu as décidé d'aller à l'école et tout ça. Qui t'a donné ta première chance?
Mon prof de radio à l'époque, qui est un gars qui a déjà travaillé à Québec pendant plusieurs années, Michel Monpetit, je pense qu'il croyait en moi passablement et de tout mon groupe. Uh-huh. J'étais peut-être le seul qui était vraiment intéressé par la radio. Et Monpetit a facilité mon entrée dans une station de radio locale à Hull, maintenant Gatineau, les week-ends, dans ma dernière des 4 sessions au collège. Il m'a dit, une station de radio qui cherche quelqu'un, je leur ai parlé de toi, vas-y, ils vont te prendre pour la fin de semaine. Alors, je faisais les week-ends, les samedis et les dimanches matin dans ma dernière session au collège, ce qui m'a donné assez d'expérience pour peut-être me démarquer des autres du groupe. Et il y a une toute nouvelle station de radio qui s'ouvrait à Rimouski au printemps de 1978, quand moi j'ai terminé. Et mon petit m'a dit, Rimouski est une ville où j'ai commencé à faire de la radio et il y a une nouvelle station qui ouvre. Va là, arrange-toi pour revenir avec la job. Et je suis allé et pour tout Montréalais que j'étais, pour moi, Rimouski, j'avais aucune idée où c'était, ni au nord, ni au sud, j'avais aucune idée vraiment. Et à l'époque, c'était depuis Montréal, 8 heures d'autobus, et depuis Ottawa, 12 heures d'autobus. Alors, je me suis dit, je peux pas aller là, voyons, 12 heures de la civilisation. Et en arrivant, station flambant neuve, tout nouveau locaux, et le jeune de 18 ans voyant plein d'équipements neufs, le studio principal avec une vue sur le fleuve, j'ai dit, OK, c'est ici qu'il faut que ça commence.
OK. Et, puis t'as passé combien d'années, là?
7 ans et demi, de 18 ans à 25 ans à peu près. Je suis arrivé à Québec en 1985. Fait que celui qui m'a donné ma première chance à la radio est mon prof de radio, Michel Montpetit. Et celui qui m'a donné ma première chance à temps complet, le premier qui m'a fait confiance comme animateur régulier, est un homme décédé maintenant qui s'appelle Sandy Burgess, dont on vient de publier il y a un mois la biographie, qui est probablement un des plus grands communicateurs de l'Est du Québec.
Oui, dans ce secteur-là. Effectivement, mais quand on parle de ça à des gens de Québec, ils ne connaissent pas.
Absolument.
Ils n'en ont jamais entendu parler.
000.
C'est comme si cet endroit-là était un microcosme. Québec est un microcosme, puis Montréal, ben là, c'est la planète Montréal. Quand un animateur émet sur les ondes de radio à Montréal, que ce soit au 98.5, à C'est quoi ou tout ça, on entend parler à Québec, mais jamais vous allez entendre parler de la radio de l'Est du Québec. Ça n'arrive pas.
Mais c'est la même chose pour Sherbrooke, c'est la même chose pour Trois-Rivières, pour Saguenay. Et je pense que c'est ça la démonstration d'animateurs qui font bien leur boulot. C'est-à-dire que si on est très bon dans son marché local, les gens vont nous adorer et les gens de l'extérieur trouveront peut-être pas si intéressant ce qu'on est en train de raconter parce qu'on s'adresse au public local, local, local. Si on entendait un très bon animateur de Rimouski puis qu'on entendait parler des enjeux de Rimouski puis de ce qui se passe à Rimouski, on dirait « OK, si tu viens de Rimouski, c'est le fun, mais à Québec, il n'y a rien qui nous concerne là-dedans. » Et ça veut dire qu'il ferait bien son travail. Si un animateur à Matane puis à Baie-Comeau est tellement vague que ce dont il parle peut intéresser quelqu'un à Montréal ou à Québec, il y a un problème. Il ne s'adresse pas à son public.
Effectivement. Oui, de là l'importance de la radio locale. Puis pendant 40 ans, là, combien de fois tu t'es fait dire qu'un jour la radio, ce serait terminé? Dans le sens où il n'y a plus personne qui va écouter ça. Parce que moi, depuis que je suis dans le merveilleux monde de la radio, j'ai commencé en 2006. Et déjà là, on nous disait « Ah non, mais le futur de la radio, c'est sur satellite et tout ça. » Puis tu sais, il n'y avait pas de mauvaise pensée, mais en même temps, satellite, ça fonctionne bien jusqu'à temps que tu passes pour la première fois en dessous d'un viaduc. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Après ça, ça coupe. Faire de la radio locale sur satellite, c'est impensable. Ça coûterait beaucoup trop cher. Combien de fois tu te l'es fait dire que c'était terminé la radio et qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce métier-là?
Ah, des dizaines de fois.
Ouais.
Des dizaines de fois. Mais en même temps, c'est un peu comme dire tu n'auras plus besoin d'amis parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a une place pour les amis proches avec qui on va parler de choses qui nous intéressent mutuellement. Nos amis, ça change dans une vie selon qu'ils ont des enfants ou non, selon qu'ils sont proches physiquement ou non. Le fait d'avoir plein de monde qui nous suit sur les réseaux sociaux ne nous donne pas des vrais amis. Je pense que la radio a gardé sa place avec les animateurs qui font bien leur boulot parce que ça reste l'ami proche dont tu as besoin.
Ouais.
Alors, les réseaux sociaux, c'est l'équivalent de la radio tellement désincarné, qui se fait à Montréal, qui se fait un peu partout. L'équivalent en anglais existe aussi. Et où les gens parlent de choses très générales, où tout le monde se sent un petit peu concerné, mais il y aura toujours de la place pour aller un peu plus loin. Alors, même si je vois des gens qui parlent de choses qui m'intéressent sur les réseaux sociaux, ça ne remplacera jamais mes amis proches ou mes frères. Alors, c'est un peu la même chose pour la radio. La radio qui est destinée à mourir est la radio plate. La radio tellement générale et qui est faite d'une façon paresseuse, qu'on prend des recettes faciles, on pense qu'il y a une recette à la radio. Il n'y en a pas plus à la radio qu'il y en a pour l'amitié. En réalité, il y a quelque chose, il y a des éléments de gros bon sens là-dedans. Si tu es un ami, ça te prend beaucoup d'écoute. Si tu es un ami, il faut que tu fasses un minimum d'efforts pour être intéressant pour les personnes avec qui tu es. C'est la même chose pour la radio. La radio qui n'écoute pas ses auditeurs ne peut pas survivre. La radio qui n'est pas en phase avec ce que vit ses auditeurs est condamnée à mourir. Cette radio-là va mourir. Mais tous les médias qui ne s'intéressent pas à ce qui préoccupe les gens qui les consomment, télé, journaux ou radio, ça va mourir s'ils ne font pas attention. Et je pense que le problème de la radio actuellement, c'est qu'elle manque de gens qui sont vraiment, vraiment à l'écoute de ce que les auditeurs veulent avoir.
Ouais. Et passionnés par le médium.
Oui.
Et passionnés par le médium. T'sais. Puis, on ne veut pas embarquer dans le jeu des comparaisons, mais n'en demeure pas moins que des stations de radio qu'on a à Montréal, à Québec, même dans l'Est du Québec, appartiennent à des grosses corporations. Les individus ne parlent pas notre langue. Peuvent pas nécessairement nous écouter, se fient un peu sur le staff qui est en place, qui, eux, ben, ont pas nécessairement une grosse, motivation à faire performer leur station de radio. Je trouve ça triste, parfois, quand j'entends des stations de radio qui sont juste sur le cruise, puis c'est sur l'automatique, puis à un moment donné, ça va finir, puis il va y avoir un jeu de chaises musicales, les animateurs vont changer tout simplement de station, puis les directeurs vont peut-être se recycler, je sais pas moi, vendre de l'assurance ou aller dans le merveilleux monde des voitures. Mais des gens qui trippent sur la radio, qui sont propriétaires de stations de radio, il n'y en a pas énormément.
Je vais te faire le parallèle entre... je pense que la radio, comme elle fait partie du monde du showbiz, comme le sport, spectacle aussi fait partie du showbiz dans une certaine mesure, je vais te faire un parallèle avec le Canadien et les Remparts. Si les Remparts de Québec étaient le club école du Canadien, il y aurait peut-être du monde qui irait voir les Remparts quand même, mais pour Jeff Molson... Que le Canadien fonctionne, c'est une question de vie ou de mort. Les montants d'argent impliqués sont tels que 95 % de son attention va être sur le gros club. Oui. Oh, et à propos, il y a un club dans lequel on développe le talent dont on va éventuellement avoir besoin. Comme les Remparts appartiennent à des gens dont l'intérêt principal est à Québec... Mm-hmm. Eux, ils n'ont personne à qui rendre des comptes. Ils n'ont rien de plus important que les Remparts fonctionnent. Alors, un grand groupe dont le boss a à gérer Montréal et le Québec va être toujours évalué sur ses résultats à Montréal. Parce qu'il y a tellement d'argent impliqué que lui, que Rimouski fonctionne ou que Saguenay fonctionne, ah OK, merci beaucoup de m'aviser de ça. Mais... comme les stations à Montréal valent souvent plus que toutes les autres stations additionnées ensemble, ou à peu près, tout l'effort est là. Et après ça, par la suite, je peux comprendre que quelqu'un qui se fait constamment demander des résultats dans le marché principal n'ait pas trop de temps pour s'occuper des marchés secondaires. Mais les auditeurs dans le marché secondaire, pour eux, l'organigramme de l'entreprise,
ils ont complètement rien à faire. Exact. Donc, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui se passe dans leur ville puis qu'est-ce qui se passe avec leur station de radio. C'est un moyen incroyable de communiquer rapidement avec les gens qui sont dans ta ville. Les gens qui se promènent dans la ville, ils vont travailler, ben, ils syntonisent le poste de radio puis ils savent ce qui se passe dans leur ville. Ils entendent le maire, ils entendent les échevins, ils entendent, je sais pas moi, les faits divers. Ils sont motivés par ça, mais... peut-être que moi, je suis un peu de l'ancienne école. T'sais. Moi, j'écoutais les gens qui... Arthur était là régulièrement le matin, puis je l'écoutais, puis je savais ce qui se passait chez nous. Puis il nous parlait d'histoires, des fois, qui étaient abracadabrantes, mais c'était un homme qui était surprenant, mais il me racontait ce qui se passait chez nous. Il parlait des restaurants qui étaient dans mon secteur. Oui. Il me parlait à moi directement dans ma voiture ou dans ma petite radio AM FM dans le temps. Là. Mais les animateurs étaient là, étaient présents. J'ai l'impression qu'à long terme, on perd ça, ce feeling-là de « je fais de la radio locale ». Je fais pas de la radio nationale, je fais de la radio locale. Et quand je me promène parfois, parce que des fois je fais Québec-Montréal, ben j'entends des animateurs de région qui sont entre Québec et Montréal, puis même des fois entre Québec et Trois-Rivières, j'entends des petites stations de radio. Puis ces gens-là font de la radio nationale.
Absolument.
En fait, ils donnent l'heure, ils parlent du groupe qui est là, mais on ne sait pas si c'est à Chambly, on ne sait
absolument.
Pas.
Absolument.
Ils ne parlent pas de chez toi.
Oui, absolument. Je me souviens d'avoir fait un commentaire à un animateur en arrivant dans son marché en lui disant « Ça fait 1h15 que j'écoute ton émission. » Et c'est pour des émissions comme les tiennes qu'ils ont inventé l'automation. Et c'est évident qu'il est resté surpris. Je dis, dans la dernière 1h15, je n'aurais pas pu dire dans quelle ville tu te trouvais. Je m'en allais dans l'Est du Québec. 1h15 de temps sans voir rien d'autre chose que les messages publicitaires pour identifier le marché dans lequel on était. Ça n'a pas de bon sens. Non. C'était tellement dilué, ça parlait tellement à personne que je ne pouvais pas savoir de quelle ville il était. C'est insensé. Puis je vais donner un autre exemple qui, celui-là, t'implique. Le soir où on a appris le décès de Johnny Hallyday, il n'y a aucune radio musicale dans le marché de Québec qui en a parlé. La seule radio qui a parlé du décès de Johnny Hallyday, c'est dans ton émission à toi. Mm-hmm. Et dans des émissions musicales qui étaient pourtant en direct, et vu qu'on applique des recettes, les animateurs avaient tellement peur de déroger de la recette qu'ils se sont dit, le gros bon sens me dirait de mettre une chanson ou à tout le moins évoquer ça, mais moi, la clientèle cible, est-ce que ça va leur parler? Tout le temps qu'ils se posaient ces questions-là, tu étais en train de donner de l'info sur le décès de probablement des deux, trois plus gros noms de l'histoire de la musique francophone des 50 dernières années.
Ouais.
Dans une radio qui parle.
Ouais.
Alors, il y a une question de sens commun, de flair de la radio, et ça, ça ne peut pas être remplacé par une recette. Et présentement, les grandes entreprises veulent toujours une recette parce que ce n'est pas une façon de gérer les choses pour une grande entreprise, de donner des clés à quelqu'un et dire « arrange ça à ton goût ». C'est pas compatible.
Mais ça pourrait pas revenir à ça à long terme en voyant le déclin des fois des recettes publicitaires. Ça pourrait pas en venir à ça, c'est-à-dire que là, on a une grosse entreprise, mais on va désintégrer tout l'organigramme. Là. Puis les gens qui sont à l'intérieur de ces stations de radio-là, on va mettre des passionnés qui sont à l'antenne, on va mettre des passionnés qui dirigent ces passionnés-là. Puis le directeur des ventes, mais ce sera pas le directeur des programmes. Ça va être le directeur des ventes, puis lui, il y aura pas besoin de se taper toutes les écoutes des animateurs. Ce sera des passionnés qui le feront. Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait revenir comme ça à un moment donné? Parce que, tu sais, moi, je regarde les recettes, là, au niveau commercial, ça diminue année après année. Mm-hmm. Puis, quand moi, j'ai décidé de faire mon changement de station de radio, je regardais la perception au départ des gens qui écoutent la radio versus telle entreprise. Puis on me disait tout le temps, « Ouais, mais Yann, tu sais, cette entreprise-là, on a l'impression que les décisions ne se prennent pas de l'intérieur. » Puis très souvent, ce qui revenait, c'est les Leclerc ont de l'air à triper sur leur station de radio. Puis moi, quand je les avais rencontrés, il y a 4 ans, lorsqu'ils voulaient acheter une autre station de radio, j'avais ressenti c'est une impression, là, mais j'avais ressenti qu'il y avait un très fort désir de leur part de monter 2 stations de radio solides à Québec, de les implanter là, puis de les avoir pour des décennies et des décennies. Ils ne voyaient pas leur station de radio comme étant un produit. Ils voyaient leur station de radio comme étant des rêves à réaliser, mm-hmm. dans lesquels ils vont mettre des individus qui embarquent dans leurs rêves à eux. Moi, ça a tout fait la différence. Et pendant des années, je pensais à eux, encore à cette discussion-là. Ça n'a pas été long, là. J'étais un homme de peu de mots, là. Fallait les rencontrer pour la vente. Puis j'ai resté là peut-être 15 minutes, alors qu'on avait prévu 1 heure. Puis j'ai dit, on s'en verra lorsque la vente sera conclue. Finalement, il n'y a pas eu de vente, mais juste pour dire, la passion des fois, ce que ça peut faire chez un individu. Moi, j'ai ressenti de la passion chez ces individus-là qui ne sont pas des animateurs de radio, mais qui sont des passionnés de radio, puis eux autres, ils ont 2 bébés, puis ils veulent faire croître leur bébé. Et tu sais quoi? Je me rends compte que les auditeurs s'en aperçoivent.
Ouais.
Fait qu'il y a quelque chose qui se passe, puis j'espère que toutes les autres stations de radio à Québec vont prendre ce modèle-là. C'est-à-dire, on va mettre des passionnés qui s'occupent de nos stations de radio pour que de plus en plus, les gens reviennent avec le réflexe d'ouvrir la radio le matin plutôt que de regarder ce qui se passe sur Spotify, exemple, ou sur d'autres façons d'écouter la radio, là.
Pour revenir à ta question qui était « Est-ce que ça se peut dans un réseau? » Combien tu connais de monde, radio ou autre, dans des grandes organisations qui ont eu des longues carrières après avoir dit « Bah, je pense que tu te trompes. »
Non, ça arrive rarement, là.
Alors, le problème dans un gros organigramme, dans une entreprise de radiodiffusion ou n'importe quelle autre entreprise, c'est qu'il y a très souvent, quand quelqu'un mesure ses intérêts personnels et les intérêts de l'entreprise, la plupart des gens vont dire « OK, il est préférable. Je vais appliquer le plan. Comme ça, si jamais le plan est mauvais, c'est pas moi qui vais me faire blâmer. Mm-hmm. On va blâmer le plan. Et moi, je vais être correct. » Est-ce que je peux reprocher ça à quelqu'un qui a une femme puis 2 enfants puis qui est en train, qui vient de s'acheter sa maison puis qui a des obligations? Ça fait des bons films, là, de dire « je vais défier le plan puis je vais dire au boss qu'il se trompe puis qu'on devrait faire les choses différemment. » Puis il prépare son CV en même temps parce qu'il sait que dans 2 mois, il ne sera plus là. Je pense qu'il manque de courage, ouais. Il manque de vision, ça certainement. Puis les gens qui sont des administrateurs, s'ils avaient vraiment l'impression que la solution est là, ils ne sont pas cons à temps plein, ils voudraient que leur entreprise grossisse, profite, qu'il y ait plus de monde. Mais je pense que dans des rencontres importantes, il y a beaucoup de gens qui se taisent, qui ont des idées de solutions, mais qui ne les exprimeront pas parce qu'ils mesurent leurs intérêts personnels. Et je ne peux pas les blâmer, mais il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un brasse. Mais je n'ai pas vu ce genre de courage-là depuis bien longtemps.
Mais on tue l'originalité. Puis ce que je constate, c'est que les gens, les propriétaires de stations de radio, les propriétaires de stations de télé, ont tendance plus à vouloir sauver les meubles puis être le plus rentable possible versus aller chercher de l'argent nouvel. De quelle façon on peut aller chercher d'autres secteurs? Tu sais, les commerçants qui font régulièrement affaire avec nous autres, pourquoi ils font affaire avec nous autres? OK, pour telle affaire. Ceux qui ne font pas affaire avec nous autres, qui sont une vaste majorité, là, pourquoi ils ne font pas affaire avec nous autres? Puis de savoir qu'est-ce qu'eux ont besoin puis qu'est-ce que nos auditeurs veulent entendre pour amener plus de monde à l'antenne. Moi, ça me... Tu sais, moi, je suis un passionné de radio, je pense que tu le sais. Je travaille en radio, je montre à mes élèves à quel point c'est un métier qui est passionnant. Puis en même temps, des fois, je réussis à créer des étincelles. T'sais. J'avais Benjamin qui était avec moi la semaine passée. Puis lui, là, après l'entrevue, on parlait de radio. Puis j'ai dit, moi, je suis persuadé que tu vas avoir une carrière en radio. Puis il était tellement heureux là, de se faire dire ça, puis qu'il allait pouvoir évoluer dans ce merveilleux monde-là. Ça me donne tellement beaucoup de voir cette étincelle-là dans les yeux des étudiants. J'en mange la radio, mais quand je regarde l'état de la radio actuelle à travers le Canada, il y a des cerveaux morts qui ne sont pas aux bonnes places, dans des endroits où ils doivent prendre des décisions. Et j'ai l'impression que si on ne fait pas quelque chose, ben ça va juste sombrer dans l'oubli. Puis à un moment donné, ben on va revenir à une, deux ou pas de station de radio dans les villes. C'est d'une tristesse quand on y pense.
Oui. Je pense pas que ça va disparaître. J'en fais pas une question de vie ou de mort. Peut-être que le marché va s'assainir. Peut-être qu'il y a des radios plus faibles. Peut-être que les grandes entreprises vont dire, est-ce qu'on continue à pomper de l'argent dans un marché où on pense que c'est pas
essentiel? Parce que fut un temps, Alain, où on pensait retirer le AM, FM des véhicules.
Ah oui. De toute façon, je pense pas avoir de AM dans mon véhicule au moment où on se parle.
Oui, mais il fut un temps où on voulait retirer la radio hertzienne au complet. Puis finalement, il y a des gens qui sont intervenus en disant que ça n'a pas de bon sens. Mais si on continue à laisser ça aller, j'ai l'impression qu'on n'avancera plus.
Bien, c'est parce qu'au-delà même des voitures, on a des étudiants chaque année qui nous disent « je peux pas écouter la radio, j'ai pas d'auto ». C'est parce que la radio est accessible d'un million de façons.
Ouais.
Si on voulait aller s'acheter une radio traditionnelle, nous, là, mettre sur le comptoir à la maison, il faudrait qu'on se pose la question, coudonc, ils vendent ça où? Est-ce que j'aurais le choix de plus qu'un modèle dans le coin, tu sais, comme un hachoir à viande manuel, tu sais que ça existe encore, mais tu vas faire des recherches pour en trouver. La radio, c'est un contact humain, très personnel entre l'animateur et la personne qui l'écoute. Après ça, la façon de transporter cette communication-là, que ce soit par une antenne, que ce soit par le web, que ça arrive dans la voiture ou ben non sur des haut-parleurs à côté d'un ordinateur, je pense qu'on parle essentiellement de la même chose. Comment on code notre conversation actuelle puis qu'on l'envoie aux gens?
Ouais.
C'est une affaire de technicien, ça. Nous, notre boulot, c'est que les gens aient envie de continuer d'écouter ce qu'on est en train de se raconter présentement. Mm-hmm. Et tant qu'on sera capable de faire ça d'une façon engageante, que les gens écoutent, qu'il y ait du fun à nous écouter, je ne suis pas inquiet pour la radio. Moi, c'est beaucoup plus le contenu que la façon de l'amener qui me préoccupe.
OK. Parlons-en du format. Montréal est un format, c'est très, très formaté. Là. Je pense à M. Arcan, entre autres.
Oui.
On parle de la station de radio la plus écoutée en Amérique du Nord. Arcan, c'est des entrevues de 8 minutes.
Oui.
Ça semble être le modèle de Montréal, très, très formaté, tandis que la radio de Québec, c'est beaucoup plus décomplexé. L'avenir des deux modèles, c'est quoi, selon toi?
Moi, je vois pas qu'on puisse... Tant mieux s'il y a deux modèles différents.
Ouais.
Parce que à Montréal, la circulation, pour ne nommer que ça, là, est une différence majeure avec Québec. Ils ont des bulletins de circulation le dimanche soir à 10h15. C'est toujours bloqué partout.
Ouais.
C'est une réalité.
Ouais.
Ils sont bien contents d'avoir Paul Arcand qui parle au premier ministre, mais à propos, est-ce que Descarry est encore bloqué? Puis est-ce que si je prends la métropolitaine en direction ouest, ça va marcher? Ils ont des impératifs qui sont différents des nôtres. Alors, eux, probablement qu'une entrevue d'une demi-heure Et il dirait, ouais, mais pendant ce temps-là, sur le boulevard, puis pourquoi ça n'avance pas sur l'autoroute où je me trouve présentement? Et ça fait partie de la réalité montréalaise. C'est d'essayer de transplanter ça dans d'autres marchés qui ont d'autres réalités, qui est une erreur. Et l'inverse est aussi vrai. Si on prenait la radio de Québec et qu'on l'envoyait à Montréal, probablement que les Montréalais la trouveraient lente. Probablement que les Montréalais diraient, mais c'est fait. 22 minutes qu'ils se parlent, eux autres.
Il m'a pas encore dit l'heure.
Il m'a pas... Il a pas eu 7 pauses commerciales.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est juste sain que ce soit différent parce que la réalité montréalaise et celle de Québec et celle des régions, c'est aussi des réalités complètement différentes. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est d'essayer de faire un produit tellement générique qui va plaire à tout le monde. Moi, je crois pas.
Non, c'est impossible.
Je crois pas à ça. Votre ami, le meilleur ami que vous ayez, n'est pas celui qui est le plus neutre dans tout. Quelle équipe de hockey t'aimes? Ouais, pas mal toutes. Si tu viens souper, je te fais-tu quelque chose de spécial? Ouais, pas mal n'importe quoi. Tu vas boire quoi? N'importe quoi. On a les gens qui pensent rien de rien, qui ont des avis sur rien, sont rarement très proches de nous. Comme animateur, on essaie de devenir les amis puis les compagnons des gens qui nous écoutent. Et la réalité de chaque marché devrait faire en sorte, je reviens à ce que je disais au début, que ce que l'on fait ensemble présentement devrait être absurde pour quelqu'un qui est à Montréal ou à cette île.
OK. Ben c'est peut-être, tu sais, moi, je n'ai pas fait une étude scientifique, mais ce que je me faisais dire quand on faisait de la radio le soir, c'est tabarouette, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui vivent les mêmes affaires que nous autres.
Oui.
Puis parfois, moi, je pense que c'est le plus beau commentaire que j'ai eu à vie. C'est Yann, tu penses-tu faire une pause? Parce que là, il faut que j'aille autour. Toilette, puis je suis dans mon char. Tu sais, ça, là, je veux dire, a priori, un animateur de Montréal qui reçoit ça, lui, ça y fout absolument rien. Moi, dans mon cas, c'est... Attends un peu, je suis dans le studio à Québec. C'est un auditeur de Québec ou ailleurs. Il est dans sa voiture. Sa femme est en train de regarder au travers des stores à savoir qu'est-ce que son mari fait dans son stationnement. Lui, il m'écrit pour me dire, Yann, c'est parce que l'invité qui est en onde, Alain Dufresne, là, il est tellement passionnant. Pensez-vous faire une pause bientôt parce qu'il faudrait que je rentre en dedans?
Ouais.
C'est tellement un beau commentaire, mais j'ai l'impression que on a ce genre de commentaires-là à Québec, et peut-être ailleurs, mais à Montréal, j'ai l'impression qu'ils sont tellement pas près de leurs auditoires qu'ils n'ont pas ce type de commentaires-là. J'ai pas l'impression que les gens sont en amour avec leur station de radio.
Écoute, je sais pas, mais je dirais que pour moi, la proximité entre un animateur et son auditeur n'est pas géographique. Quelqu'un qui écoutait ton émission, qui est peut-être en train de nous écouter maintenant, si ce qu'on fait est intéressant et que ça le concerne, celui qui t'écoutait le soir et qui se sent concerné par ce que tu racontes, ta situation est la même que lui. S'il est dans son 10 roues en train de rouler vers Montréal, tout seul dans son 10 roues, t'es tout seul dans ton studio.
Exact.
Les deux, vous n'êtes pas avec votre conjointe puis vos enfants.
Ouais.
Les deux, vous êtes au travail. Il y a quelque chose de commun. La proximité...
Et au paradis, là, t'es pas avec ton conjoint d'enfant. On est sur la route, là, on est dans le studio, bonjour. C'est le paradis, ça.
Ce commentaire n'engage que l'animateur.
Voilà.
La situation est commune. Je pense que dans le marché de Montréal, les auditeurs sont un peu plus contemplatifs. C'est-à-dire qu'ils voient les gens de radio comme les gens de télé, comme les gens au cinéma. Ils sont spectateurs de quelque chose qui se passe sur la scène et où ils sont un peu invités une fois de temps en temps dans des tribunes où on les laisse poser une question et dès que la question est terminée, la ligne est coupée puis on entend la réponse et après ça, on passe à un prochain. C'est un spectacle sur scène, la radio, comme je l'aperçois à Montréal maintenant avec les personnes très connues et tout, alors qu'à Québec, on a l'impression que c'est un party de cuisine avec les gens assis autour de la table et on discute.
Exactement. C'est ce qu'on dit aux élèves. En fait, c'est ce que je dis aux élèves au collège. La radio n'est pas compliquée à partir du moment où tu considères que quand tu fais une émission de radio, il y a du café qui est dans le milieu de la table puis vous prenez un café entre amis.
Ouais.
Puis vous discutez de tous les sujets. Cette façon de faire de la radio, ça plaît beaucoup aux individus. Ça peut être une caisse de bière. Là. Je sais que dans ton cas, ça pourrait être une bonne bière fraîche. Mais pour moi, c'est du café, Alain. Et c'est ce que j'aime comme ambiance. Créer cette ambiance-là où tout le monde peut jaser, j'adore ça. Mais effectivement, il y a deux modèles qui existent. En même temps, ça se demandait pourquoi on est si différent, parce qu'on est quoi, à 200 km de distance, Montréal et Québec, et c'est deux façons de faire complètement Différent.
Oui, mais comme Montréalais d'origine et maintenant à Québec, et,
non, mais j'ai passé. Tu t'es amélioré, visiblement.
Je fais plus des A puis des valoines. Je dirais que la façon dont on grandit, par exemple, on grandit beaucoup dans la méfiance de l'autre à Montréal. C'est parce qu'il y a tellement de monde, quelqu'un s'adresse à nous, on dit « qu'est-ce qu'il me veut? » Et on est comme en mode défensif dans tout ce qu'on fait. On ne sent pas ça à Québec. Québec est beaucoup plus facile à prévoir. On est à 95 % blanc, francophone, caucasien. Il y a des gens qui viennent des régions et ça colore un peu la ville, mais on est loin d'être multiethnique ici, là. Mm-hmm. Loin de ça. Alors, à Montréal, la barrière culturelle, elle est omniprésente. Les gens sont beaucoup plus isolés qu'on l'est à Québec. Ça arrive, tu sais pas que c'est impossible dans les quartiers, mais avoir des voisins qui se parlent à 3 puis 4 maisons de distance les uns avec les autres, on voit beaucoup plus souvent ça à Québec qu'on voit à Montréal. À Montréal, c'est beaucoup plus... tu rentres chez vous, fais tes affaires, dérange pas le voisin, puis garde la paix. Et tu n'auras pas d'ennui. On a l'impression que c'est beaucoup plus dans cet esprit-là. Alors, je pense que le côté latin, le côté « viens chez nous, puis si on manque de bouffe, on rajoutera de l'eau dans la soupe », je pense qu'on a peut-être plus ça encore présent à Québec que ce qu'on voit à Montréal. On est moins cloisonné que ce que l'on voit à Montréal, je pense.
Puis pour ceux qui travaillent à la radio, on dirait, puis effectivement, on dirait qu'on a comme enlevé cette barrière-là de « on est différent des autres ». Très souvent, tu sais, moi, je me fais inviter pour « Yann, on s'en va se promener en motoneige. J'ai une motoneige de disponible, si t'en as pas, viens-t'en avec nous autres. » Mais pour que le gars pense à m'inviter moi, je l'ai jamais rencontré de ma vie. Mm-hmm. Mais pour que le gars pense à m'inviter moi, c'est parce qu'il sent qu'il n'y a pas de barrière puis qu'il va passer une belle fin de semaine. C'est la même affaire pour des rides de moto. L'été, quand je parle de moto, des gens disent « viens rider avec nous autres, on va avoir du fun. » C'est quelque chose qui est particulier, ça, à Québec puis en région, parce que là, effectivement, ça me faisait la même affaire quand on était à Saint-Georges. Mais oui, c'est un lien qui est privilégié avec notre auditoire. Puis des fois, je me dis, peut-être que les grosses vedettes de Montréal s'ennuient de ce genre de contact-là qu'ils peuvent avoir avec des auditeurs.
Je pense que oui.
Oui, hein?
Je pense que oui, parce qu'en plus, t'es pas obligé de... Je me semble que c'est Véronique Cloutier qui disait à un moment donné, « Je peux-tu aller, moi aussi, chez Couche-Tard, chercher du lait, sans être maquillé avec des talons de 2 pouces, le samedi matin, habillé en mou, s'il vous plaît? » Un peu comme si les gens reprochaient de pas toujours être la Véronique qu'on voit à la télé. Ici, quelqu'un qui aurait, appelons ça l'attitude vedette, quelque part dans un restaurant ou un endroit public, on entendrait parler, on dirait qui se prend, l'animateur de radio?
Exact.
Ouais. Ici, on est un membre de la famille qui a une tribune, c'est tout.
Ouais.
Mais quelqu'un qui aurait l'espèce de comportement qu'on associe aux personnalités du showbiz, dans le monde de la radio, ça passerait pas. Quelqu'un de Québec qui réussit comme humoriste, qui réussit comme comédien, oui, il a cette espèce de statut-là. Mais à la radio, non. Ça sonnerait tellement faux. La personne se ferait tellement descendre sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas de bon sens.
Ouais.
On est obligé d'être humble.
Effectivement. Est-ce que... j'ai encore une multitude de questions à te poser. Là, tu vois, j'ai même pas pris de notes.
Hein? Ces étudiants voyaient ça. Mais monsieur, sa feuille est blanche.
Exact. Mais c'est tout le contraire dans ma tête quand je parle de radio. Parlons donc des étudiants. C'est quoi l'animateur et l'animatrice de demain? Celui qui va arriver sur le marché, est-ce qu'il est différent des animateurs de... je veux pas te vieillir, là, mais tu as quand même un peu de cheveux blancs. Des animateurs de ton époque versus mon époque à moi versus la leur?
C'est radical. Quand j'ai commencé à faire de la radio, on était à la fin de l'époque de la radio avec un petit doigt en l'air où tu trouvais des trucs dans les journaux puis où tu les racontais avec un français le plus impeccable possible, souvent avec des notes écrites. Tu écrivais ce que tu voulais raconter puis c'était très beaucoup plus formel. Les années 80 ont amené un changement au niveau du ton en ondes, la façon dont on se jase présentement. C'est arrivé avec l'époque Arthur et Gilles Parrain et le Zoo. Au milieu des années 80, il y a une grosse transformation. Et je pense que l'animateur 2.0 va devoir être extrêmement bien connecté parce qu'il est en concurrence avec tout le monde. Auparavant, la radio accompagnait et la télé faisait du divertissement comme c'est le cas au cinéma. Maintenant, tout peut accompagner. Les balados accompagnent. Tout ce qu'on trouve sur Internet accompagne. Les sources de divertissement sont immenses. Et je pense que l'animateur doit devenir maintenant quelqu'un qui est encore plus polyvalent qu'il n'a jamais été. Quelqu'un qui s'intéresse, mais vraiment, vraiment, vraiment à tout, parce que les auditeurs s'intéressent à tout. Auparavant, tu pouvais dire, bon, je vais m'en tirer un peu de connaissances musicales, je m'intéresse au hockey du Canadien, puis ça va aller.
Généraliste, là.
Oui, exact. Maintenant, c'est une autre sorte de généralisme, parce que les auditeurs qui s'intéressent au sport suivent la NFL, suivent le basket. La NFL, il y a 20 ans à Québec, tu commençais à entendre parler de ça, mais c'était un quatrième sujet dans les émissions de sport. Le basket avant la poussée des Raptors, c'est correct, c'est sympathique, t'avais quelques personnes qui connaissaient ça. Mais maintenant, les gens sont de plus en plus connaissants d'un tas de sujets. Et comme animateur, je pense que les auditeurs vont devenir plus exigeants, comme ils sont plus exigeants avec des vendeurs. Tu parles avec un vendeur d'auto ou un vendeur d'électroménager. Les clients se présentent puis ils sont capables de t'expliquer comment la laveuse marche puis ils ont tout pris les caractéristiques partout. Maintenant, comme animateur, si tu te trompes en onde...
Non, je le fais dire.
Instantanément. Les gens Google trouvent puis ils sont contents de te dire que tu t'es trompé.
Puis il y a des trucs pour compenser là, sans nécessairement vendre toute la magie, là, se greffer des gens qui sont extrêmement connaisseurs dans des domaines. Quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui se connaît en F1 puis tu parles de F1, ben, tu le greffes à toi.
Oui.
Toi, tu vas poser les questions que l'auditeur qui n'est pas tout à fait habitué avec la F1 va peut-être se poser dans son véhicule. C'est comme si tu changeais de rôle, tandis qu'avant, dans les années 80, ben, c'était l'animateur qui disait ce qu'il voulait dire concernant tel truc, puis les gens n'avaient pas leur ordinateur au bout des doigts.
Exact.
Là, maintenant, ils ont leur cellulaire, fait que tu peux pas leur en passer.
Oui.
Tu sais, puis ça me fait rire parce que il y a de ça quelques mois, toi et moi, on a jasé. Et on jasait d'un animateur qui venait d'arriver en poste dans une grosse station de radio. Puis c'était nouveau pour lui. C'était un métier qu'il n'avait jamais vraiment fait, là, celui d'animation. Tu m'as dit, Yann, il y a quand même eu 2-3 erreurs factuelles là, sur l'histoire. Entre autres, on parlait de René Lévesque là, et tout ça. Mais avant, tu pouvais faire des erreurs factuelles, puis les gens ne te le renotaient pas.
Non, exact.
Tu sais, aujourd'hui, tu fais des erreurs de date, là. Mais je sais pas, moi, René Lévesque est décédé en telle année. Tabarouette, t'as pas idée, Alain, à quel point ça arrive vite, là.
Ouais.
Les gens, ils sont pas tout le temps doux, là.
Non.
Mais avant, tu pouvais te tromper, puis la personne qui était dans son char se disait, bah, il s'est trompé.
Ouais.
Mais il pouvait pas t'en rejoindre.
Ouais. Alors que maintenant, c'est jamais plus loin que 2 pouces ou un index, tu dirais, dans mon cas, quand c'est moi qui pitonne sur mon téléphone. Là. Mais,
quand tu pitonnes sur ton clavier, c'était 2 index.
Les 2 index.
T'es le seul individu que je connais qui est capable d'écrire des textes avec tes 2 index. C'est particulier, ça.
C'est la deuxième partie du podcast, mesdames, messieurs, mes problèmes personnels. mais c'est ça, ça oblige les animateurs à être particulièrement bons, vigilants, parce que vous allez vous faire ramasser sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça, mais les animateurs 2.0 doivent être bons en ondes, extrêmement succinct parce que les auditeurs sont moins enclins peut-être maintenant à écouter des longues interventions. On est en train de montrer le contraire à nous autres là. Mais le niveau d'attention des gens est moins long qu'il a déjà été. Et la présence visuelle est maintenant de plus en plus importante. On est chanceux, nous autres, on fait ça sans caméra présentement.
Oui.
Mais à peu près toutes les stations de radio, maintenant, sont équipées avec un studio ou avec des caméras dans le studio principal. Et ça aussi, ça change la façon de travailler parce que la plupart des animateurs sont extrêmement timides et pas confortables du tout avec la présence d'une caméra. Il y a une différence fondamentale entre un animateur de télé et de radio au niveau de la personnalité. Vous n'avez pas idée. La plupart des animateurs de radio, même les plus importants, sont des gens qui sont gênés dans la vie, sont timides. Tu prends l'ascenseur avec, puis ils se regardent le bout des bottines. Alors que la plupart du temps, les gens qui sont intéressés par la télé, puis je pense que c'est normal que ce soit comme ça, ils ont le menton haut, ils sont fiers de qui ils sont, puis ils ont besoin de public. Alors, entrer une caméra dans un studio qui est le dernier refuge des gens gênés et prendre des images, je pense que ça a un impact sur le genre d'animation qu'ils font aussi.
Oui, effectivement. Entièrement d'accord avec toi. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, on est avec Alain Dufresne, qui est directeur du Collège Radio-Télévision de Québec, qui a 40 années derrière la cravate. En fait, au dernier micro, on va dire ça comme ça. Ça paraît mieux. Mais il a commencé très jeune.
Il y a ça.
Il n'y a pas un cheveu blanc. Aucun cheveu blanc. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir.
As-tu attendu à Commère?
Ben oui, elle me l'a dit. Et puis tu sais pas quoi?
Ben voyons donc.
Ben oui, la Commère Magasin Général, le nouveau magasin dont tout le monde parle à Québec. C'est le plus beau coin bonbon de jouets vintage. Et pour les fans finis de Noël, c'est la meilleure place pour choisir vos cadeaux et remplir vos bonnes Noël. Jusqu'aux fêtes, ouvert 7 jours sur 7 et en soirée du lundi au vendredi. La Commère Magasin Général, au Méga Centre Le Bourgneuf, près du Winners. lacommère.ca.
Ben voyons donc.
Boulevard 102.1 et Leucan sont fiers de mettre de l'espoir et de la lumière dans le quotidien des battants, des guerriers de la région de Québec. Nous vous invitons donc à vous procurer les boucles d'oreilles de l'espoir Leucan. Ce bijou orné d'une petite pierre en forme de cœur est élégant, durable et sans risque d'allergie. Une belle idée cadeau pour les petits et les grands. 20 $ par paire vendue seront remis à Leucan pour aider les enfants atteints de cancer et leurs familles. Visitez le miajwl.com.
Ce week-end, au Centre de glace Intact Assurance, venez voir Laurent Dubreuil et l'équipe canadienne affronter les patineurs de vitesse les plus rapides au monde au championnat des quatre continents. Billets longuepiste.ca.
Le Corsaire Microbrasserie, c'est la place pour vos parties des fêtes. Avec la bonne bière, de la bonne bouffe et une ambiance incroyable, autant au pub de la Traverse qu'au salon de dégustation.
Réservez maintenant le Corsaire.
418-380-2505. 418-380-2505.
Ce segment d'émission, présenté par la Commère Magasin Général, la meilleure place pour vos cadeaux et bonne Noël. Jusqu'aux fêtes, ouvert 7 jours sur 7 et tous les soirs de semaine. lacommère.ca.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattable. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois. Cliquez sur nos offres pour en connaître davantage et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ pour seulement 50 $ chez Institut Diva. Ou encore, un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ pour seulement 50 $ à la boutique 7e Ciel.
Un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
Cette année à Noël, pour tout trouver, simple, fafa, pas compliqué.
Noël Amel pour le plus grand choix de sapins et de décoration Noël au Canada. Noël Amel, vous serez emballé. 6029 Boulevard Amel.
Du mercredi au samedi, revivez la frénésie des années 80-90. Midnight Blue. La seule discothèque en ville à vous offrir un nightlife digne des années 80-90. Le mythique Midnight Blue. Dans le complexe Phoenix du Parvis, au cœur de Saint-Roch. PhoenixDuParvis.com.
Jusqu'au 1er décembre, les glissades Duxbury.com vous offrent jusqu'à 33% de rabais. Les glissades Duxbury.com en pré-vente jusqu'à 33% de rabais. Achetez en ligne à avant le 1er décembre, les glissades Duxbury.com.
L'application Boulevard 102.1. Un incontournable depuis au moins 4000 ans.
Je ne suis peut-être pas capable d'allumer un feu, mais j'ai tout ce qu'il me faut avec cette application. Et comme disait mon vieux père, roche et roule.
Appelez, textez, votez, réécoutez l'app Boulevard 102.1. Un incontournable. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir. Le soir.
Ce soir, quel plaisir que j'ai. Je suis persuadé que vous en avez tout autant. On est avec le directeur du Collège Radio-Télévision de Québec, Alain Dufresne, qui est là pour une première fois dans Marceau Soir. Merci d'être là, d'ailleurs.
Merci de l'invitation. Je suis tellement content.
Ben oui. C'est comme je t'ai dit au début. T'sais, ça faisait longtemps que j'y pensais. Je me sentais pas prêt parce que c'est comme une dose supplémentaire de stress que je me mets sur les épaules. Mais quel plaisir de t'avoir avec moi. Pour ce qui est des gens qui s'intéressent au merveilleux monde de la radio, il y a bon, le directeur du Collège Radio-Télévision de Québec, c'est à quel endroit? C'est dans le Collège Barthes. Mm-hmm. C'est sur la côte d'Abraham.
Oui, absolument.
Puis qu'est-ce qu'on y apprend au Collège Radio-Télévision de Québec?
Nous, ce que l'on croit, c'est que l'étudiant devrait avoir tous les outils dont il peut possiblement avoir besoin pour entrer dans une station de radio. Et la formation, elle serait tellement simple si on savait dans quelle station précise nos étudiants vont commencer. Mais on ne le sait pas.
Ouais.
On a des fois des gens qui se présentent à nous avec un vague rêve. Ils sont attirés par les communications. Des fois, c'est un peu plus précis. Je pense à Benjamin que tu as reçu la semaine dernière qui disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde du sport. » Et oups, en faisant autre chose, je m'aperçois que tiens, je serais capable de faire autre chose que juste ce qui m'intéresse principalement. Alors, on essaie d'ouvrir aussi les horizons parce que la plupart du temps, les emplois à la radio ne sont pas si connus que ça. Les gens connaissent l'animation, mais ne voient pas les autres emplois qu'il peut y avoir dans une station de radio. Alors, en essayant un peu de tout, de la radio musicale, même pour des gens qui trippent journalisme, et du journalisme pour des gens qui pensent qu'ils sont destinés à la radio musicale, puis en faisant de la pub avec des gens qui n'ont jamais pensé que la pub, c'était beau, puis que c'est épouvantable, ça encourage les gens à consommer. On fait essayer tout, et le roi de la sortie de zone de confort, c'est toi, là. On essaie de sortir le plus souvent possible les gens de leur zone connue et leur dire « Oh, as-tu déjà essayé ça? Je sais pas si tu vas l'aimer, mais essaie-le. » Et si tu es bon là-dedans, peut-être que tu vas commencer à aimer ça aussi. Alors, on donne un tas d'outils. Journalisme, la technique d'entrevue, faire des montages audio, l'animation, évidemment, la programmation musicale, sont tous des métiers qui existent dans le monde de la radio et qu'on fait essayer intensivement pendant les deux sessions du programme. Et c'est toujours un cadeau quand quelqu'un, à la fin du programme, dit « J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. »
Exact. Oui, on se le fait souvent dire, puis moi, ça fait déjà quelques années que je suis là, beaucoup moins longtemps que toi, bien entendu, mais de voir qu'il y a des individus qui se présentent. Puis je vais nommer des noms, tu sais, Juliane qui arrive, qui est allée faire l'Université Laval, qui se présente, puis elle me dit, ben moi, j'écoute telle affaire. OK, c'est cool. Mais de tomber sur quelqu'un qui a un autre parcours différent, puis qui me dit, ben moi, c'est mon premier jour au Collège Radio-Télévision de Québec. Ah, que cool. T'écoutes quoi comme radio? J'écoute pas de radio. OK, puis tu veux faire ce métier-là. Mmh. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ben, c'est des communications. Curieusement, des gens qui me sortent la bonne vieille phrase, ben mes tantes m'ont toujours dit que je serais peut-être bon là-dedans. Là, fait que je viens essayer ça. Ça m'inquiète tout le temps, mais à la fin du parcours, à la fin du cursus, j'ai tout le temps des belles surprises d'individus qui ne savaient pas trop ce qu'ils venaient faire au collège ou, tu sais, changement de carrière. On a eu des élèves qui avaient 40 ans, 50 ans. On en a autour de la vingtaine, bien entendu. Mais on a eu des élèves qui avaient 40 ans, 50 ans puis qui ne pensaient pas être capables d'arriver dans ce métier-là. Puis de voir qu'à la fin du parcours, ils disent « Tabarouette, on a donc bien évolué au niveau des connaissances générales. » Parce que bien souvent, on en a des connaissances générales, mais c'est quand même juste dans deux, trois affaires. T'sais, on reste dans nos affaires. Nos amis nous ressemblent beaucoup.
Oui.
Ils ont les mêmes goûts que nous. Notre conjointe, à peu près les mêmes goûts que nous. Mais de les amener dans leur faire parler de théâtre, à quelqu'un qui n'a jamais vu une pièce de théâtre, c'est quelque chose. De leur faire parler de musique, il y a plusieurs types de musique. Il y a de la musique qu'on peut entendre dans les stations country, puis il y a de la musique qu'on peut entendre, à Rock Détente.
Ouais.
Ça n'existe plus, là, c'est maintenant rendu Rouge FM, mais c'est une station de radio qui est plus pour les femmes, puis de les faire évoluer au travers de ça. Puis de les voir, puis de dire, tabarouette, je pensais jamais être capable de tout faire ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, autant toi que la plupart des profs, là, je pense que vous êtes tous capables de transmettre votre passion, puis ça se ressent, surtout à la fin de l'année où les élèves disent, vous m'avez changé.
On le fait pas pour ça. On est heureux quand le constat à la fin, c'est ça. Et c'est tellement un métier qui est le fun, qui est agréable, mais comme n'importe quel métier, c'est aussi un travail. Et je pense que la grande surprise de ceux qui font un cours comme le nôtre, la grande surprise qu'ils ont, c'est on ne pensait jamais que c'était autant de travail que ça. Ils vont faire des fois beaucoup, beaucoup de recherches pour une émission qui va durer 3 heures de temps. Et je pense qu'ils ont travaillé fort. Et quand ils sortent, ils sont fatigués. Et tu dis, dans le business, là, demain, il faudrait que tu en fasses une autre. Et après, là, il y a une autre journée. Il faudrait que tu en fasses une autre de même. Et là, des fois, tu vois les faces s'allonger en disant « Oh, ouais! » Ben, c'est ça. Être humoriste, c'est de travailler à peaufiner encore, pas encore, pas encore, de façon à ce qu'un coup sur scène, ça donne l'impression que c'est tellement facile puis qu'il invente tout au fur et à mesure. À la radio, c'est un peu la même chose. On est en train de se parler tous les deux. Je pense qu'on est passionnés par notre métier. Mais on n'a pas commencé à réfléchir à notre vision du métier 10 minutes avant de commencer ce qu'on est en train de se raconter là. On a déjà eu l'occasion de faire des entrevues ensemble. Comme tu disais, ça fait une quarantaine d'années que je suis dans le métier. Toi, ça va faire, mine de rien, ça fait déjà 16 ans que t'es dans le business. On réfléchit constamment à ça. Ce qu'on fait présentement, c'est pas parce qu'on a décidé il y a 2 minutes qu'on parlerait de radio qu'on va être capable de le faire. C'est le cumul de ce qu'on a fait. Alors, quelqu'un qui s'intéresse au métier doit aussi réaliser que pour habiter une émission de 3 heures de temps où on parle, ça prend du matériel, pas à peu près. Plus quand on a 18 ans ou 19 ans, parce qu'on n'a pas tant de vécu à partager non. avec les auditeurs.
Exact.
Quand on commence à 30 ans ou à 35 ans, on a notre expérience de vie qu'on ouais. va partager avec les auditeurs. Ça devient plus facile.
Puis de les arrimer avec leur auditoire. T'sais, on leur fait faire différents styles de radio.
Ouais.
Un jeune de 20 ans qui veut animer à Radio-Canada, il y a un step, là, parce ouais. que les gens à qui ce jeune-là va parler, puis je ne veux pas vieillir les gens qui écoutent Radio-Canada, mais il y a énormément de gens de 60, 70 oh. ans qui, eux autres, un jeune de 20 ans, ça les intéresse pas tant que ça. Mais on réussit quand même à les intégrer, puis ils sont capables quand même de rentrer à Radio-Canada parce qu'on leur donne des éléments, des références. Exemple, Denis Lortie, en 1984. Ouais. Moi, je me sers de cette émission-là, que j'appelle une émission spéciale, parce qu'on peut faire des émissions spéciales. Il arrive des tragédies à Québec, puis bon, qu'est-ce qu'on fait? À qui on parle? Comment on fait pour rentrer en onde? Nos collègues, on devient le corps arrière de notre équipe.
Ouais.
OK, ben toi, tu vas faire du journalisme. Toi, tu vas aller directement sur place à l'Assemblée nationale. Toi, tu vas être la recherchiste. OK, mais oui, mais je suis recherchiste, mais je parle à qui? Ben, à qui? Il se passe de quoi à l'Assemblée nationale? Nécessairement, tu vas appeler la police, tu vas appeler au com. Donc, je les prépare à ça, mais ils apprennent ce qui s'est passé en 1984, que Denis Lortie est rentré armé et Denis Lortie pensait être capable de rencontrer René Lévesque pour le tuer, pensait être capable de rencontrer les ministres pour les tuer. Il voulait anéantir la démocratie au Québec. Denis Lortie, c'était son plan. Ben, les élèves apprennent ça.
Oui.
Alors que si je leur avais fait juste une émission spéciale sur quelque chose de fictif, il n'y aurait pas eu rien qui aurait rentré dans leur tête, mis à part le fait que voici, c'est de cette façon-là qu'on fait une émission spéciale. J'ai Denis Lortie, puis j'ai plein d'autres trucs en tête là, que je lui fais faire une fois de temps en temps. Mais tu sais, une fois qu'ils arrivent dans leur famille, ils sont transformés parce qu'ils savent des affaires que leur père se souvienne, que leur grand-père se souvienne. Donc là, ils sont capables de parler à une clientèle qui est peut-être un peu plus vieille.
Et en plus, tu as forcé la recherche.
Ben oui.
Et avec un peu de chance, ceux qui font un exercice comme celui-là vont garder l'habitude d'aller un peu plus loin. Après avoir fait une recherche sur Lortie, et c'est toujours une émission qui est spectaculaire, on s'en aperçoit là, quand Yann fait faire cette émission-là dans le collège, c'est assez chaotique. Si le résultat de ça, c'est... « Wow, on n'aurait jamais pensé qu'il y avait eu un événement de cette importance-là à 4 minutes à pied du collège.
Ouais. »
Et on avait vaguement entendu parler, mais on n'a jamais réalisé l'ampleur de ce qui s'est passé à ce moment-là et de l'importance de la radio dans le déroulement des événements et la couverture de ça. Et peut-être que ça va donner envie d'aller voir d'autres choses et de continuer d'ouvrir ses horizons.
Dans le merveilleux monde de la radio, quels sont les personnages avec qui tu as travaillé, qui t'ont marqué, que ce soit positif ou négatif? Puis pourquoi ils t'ont marqué, ces individus-là?
Écoute, je vais commencer par celui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. J'en parlais un peu plus tôt, l'animateur montréalais Marc Denis, dont j'utilise encore avec les étudiants de temps en temps un exemple sonore parce que c'était une époque où la radio en anglais à Montréal était faite à certains moments de la journée par des animateurs parfaitement bilingues, mais parfaitement bilingues. Commence une phrase en anglais, continue en français et revient en anglais. Au point où les radios francophones se sont plaintes et le CRTC a interdit de travailler en anglais et en français à la fois. C'est pour dire comment est-ce qu'ils étaient bons.
Il y a des gens qui parlaient français qui les écoutaient.
C'est exact. On va dire, on va coloniser les franco, puis comme si les anglo, eux autres, n'ont pas pu profiter de... Oui, exact. Lui est celui qui m'a donné envie de faire le travail. Sandy Burgess, dont je parlais tantôt, qui m'a donné, je pense, la rigueur et l'éthique de travail dont j'avais besoin, surtout au début de la carrière, là, où tu peux prendre des fois des mauvaises décisions. Mais c'est clair qu'à partir du moment où j'ai entendu Arthur, j'ai compris compris que j'avais perdu beaucoup d'années à faire de la radio, qui était en fin de vie, un genre de radio qui était dépassé. Et comme j'étais pas connecté sur Québec à l'époque, dans les années 80, tu pouvais pas écouter la radio sur Internet, là, fallait-tu prendre ta voiture et peut-être te promener. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que la radio avait changé, que la façon de s'adresser aux auditeurs avait changé. Et c'est aussi quelqu'un qui a... ça m'a fait comprendre l'importance d'être capable de raconter une bonne histoire. Avant ça, je travaillais beaucoup plus dans la synthèse d'une idée et la ramener en onde le plus facilement possible, quasiment comme un journaliste qui aurait fait des nouvelles en deux chansons. Mmh. Et je repense à ça aujourd'hui, je me dis ça devait être plate à s'ouvrir les veines. Et arrive un gars qui raconte les choses et qui a une telle connexion avec son auditoire. Et ça, ça a eu un impact majeur sur ma façon de m'adresser aux auditeurs par la suite. Et pour des raisons complètement autres, Gilles Parent et sa gang des années du Zoo qui ont démontré que on n'est pas obligé d'avoir 40 ans pour être au sommet de son âge au sommet de son art ou 50 ans. Voilà une gang de ticus dans la vingtaine qui ont déboulonné la statue d'Arthur, pas quand il était en fin de vie, quand il était au sommet de sa popularité.
Les gars travaillaient 18 ans par jour.
Absolument. Et ça, le message que ça a passé, c'est exactement celui que tu viens de souligner. Travaille. Tu penses que tu as travaillé fort, c'est parce que tu n'as pas vu comment eux autres travaillent. Tu penses que tu es fatigué, regarde eux autres. Et ça a été des modèles tout pour des raisons différentes l'un de l'autre.
OK. Arthur, c'est le fait qu'il avait l'air d'un monument derrière son micro, c'est le fait qu'il avait une grosse voix forte, parce que tu dis, il s'exprimait différemment, il racontait une histoire. Puis M. Arthur a toujours dit qu'il était paresseux. Alors que c'est un individu qui pensait à son affaire la veille. Mmh. Moi, en travaillant avec lui à la fin de sa carrière, je me suis aperçu que très tôt le matin, il était au courant des choses qui allaient jaser. Puis bien souvent, il m'écrivait la veille par texto pour me dire les sujets qui allaient jaser. Donc, il se préparait nécessairement. Il faisait son histoire. Puis je me dis, mais parce que c'est un individu qui avait une mémoire phénoménale, mais il devait quand même, dans sa tête, pendant qu'il conduisait ses autobus, là, il devait quand même former ces histoires-là pour essayer de s'en rappeler. Je veux dire, c'est incroyable, ces mémoires-là, mais en même temps, sa façon de raconter, j'ai jamais entendu ça nulle part. T'sais.
Et une des facultés qu'il avait, c'était de rendre clair des choses extrêmement compliquées. Ouais. Plutôt que de tourner les coins ronds, il était capable de trouver la bonne image pour qu'on puisse comprendre son point de vue sur quelques sujets que ce soit. Lui, c'était une économie de mots, vraiment, et très, très percutant. Mais en même temps, dans l'exemple que tu as donné, il y a quelque chose qui m'apparaît essentiel dans notre métier. On ne prépare pas une émission de radio une heure avant d'entrer en onde. On prépare notre émission de radio 7 jours sur 7, du réveil le matin jusqu'au coucher le soir. Tout peut être intéressant. Et
je te confirme. Même la nuit, des fois, on se réveille pour penser à ça, on se dit « Tabarouette, je vais avoir tel invité, je ne vais même pas préparer. »
Je ne voulais pas donner cet exemple-là, j'avais peur qu'on passe pour des bizarres, mais effectivement, c'est ça. Et on est en mode préparation permanente. Et c'est aussi ce qui use les animateurs. Il arrive un moment où ça peut devenir lourd. Il faut qu'on ait quand même une certaine hygiène de vie, mais je pense qu'on est toujours... Tu vas partir en moto, je vais partir en décapotable, et on est toujours en train d'observer puis de dire « Ah! » As-tu remarqué que... Je pense qu'on est insupportable pour les conjointes aussi, pour cette raison-là.
Ben, surtout qu'ils entendent une partie de leur vie aussi à la radio. C'est assez particulier. Alain Dufresne, pour les gens qui seraient intéressés par le merveilleux monde de la radio, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent-tu t'appeler au collège?
Oui, absolument. Internet fonctionne toujours. Info à commercial.crtq.ca. Ça va pas veiller de fermer, c'est Internet.
Non, je pense pas.
Le site du collège, crtq.ca, c'est toujours une bonne façon de nous rejoindre. Le numéro de téléphone y est indiqué aussi. Je fais une petite parenthèse. Le collège a été refait de fond en comble.
Oui, vraiment.
Il y a 6 mois, ça ressemblait au stationnement d'Youville. Plafond plancher en béton avec des colonnes. Et maintenant, on a des studios qui feraient l'envie d'un tas de stations de radio que je connais. On n'a jamais été mieux organisé qu'on est là. Et c'est directement dû à Nicolas et Dominique Bellerose, qui sont maintenant ceux qui administrent le collège Barthes, qui ont eu cette vision-là de dire on va donner des outils remarquables pour les étudiants du collège. On Jamais, j'ai été propriétaire de cette entreprise-là pendant 13 ans. Je n'étais même pas proche d'avoir les moyens puis la possibilité de faire ce qu'ils ont fait pour les étudiants. Et c'est flambant neuf. On est en train de terminer notre première session complète dans nos nouvelles installations. Pour moi, chaque jour, c'est le bonheur.
Effectivement. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Ben oui, c'est déjà fini. Mais on va refaire ça dans une couple de mois. Là. C'est tout ça. Je me trouverai un autre prétexte. Alain Dufresne, un gros merci.
Merci beaucoup, Yannick.
À tous, une excellente fin de soirée. Dans quelques minutes, ce sera les podcasts, puis on se reparle demain, 11h30. Salut!
Marceau, le soir. Metallica, à Montréal, sur scène centrale, au Stade olympique de Montréal. Metallica. Tournée mondiale M72. Deux soirées, deux spectacles différents. Un week-end de chansons uniques. Le vendredi 11 août, avec invités spéciaux Pantera et Mammoth WVH. Le dimanche 13 août, avec invités spéciaux Five Finger Death Punch et Ice Nine Kills. Deux jours en vente ce vendredi 2 décembre à 10h sur evenco.ca. Deux soirs de rock. Chansons jouées une seule et unique fois. Metallica sur scène centrale. Présenté par Black and American Whiskey et Liquid Death Mountain Water. Tuez votre soif.
À Boulevard 102.1, on est capable de vous parler de presque tout.
J'adore les potages.
Goûte à ton potage puis dis-moi que c'est pas la pire chose que t'as mis dans ta bouche de ta vie.
Mais quand il est question de municipal, politique ou de gros n'importe quoi, on préfère laisser le micro à...
Notre ami François Bourque du Soleil est avec nous autres.
Antonine Iaccarini, elle est au bout du fil.
Hey, Des, c'est un plaisir de te retrouver.
Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
Le Vendredi fou est maintenant en cours chez l'équipeur. Du 24 au 30 novembre, économisez jusqu'à 70% en magasin et en ligne. De gros rabais et de nouvelles offres sur les bottes de randonnée, les molletons, les vestes et plus. Visitez l'équipeur en magasin ou l'équipeur.com pour magasiner et économiser.
Vos boutiques érotiques au 7e ciel et WeVibe prolongent le plaisir du Vendredi fou. 20% de rabais sur le WeVibe Bluetooth pour vibrer de plaisir à distance dans le bain ou la douche. Cadeau de 100$ avec tout achat WeVibe. Jusqu'à vendredi au 7e ciel. 911 Charest-Ouest et Marché Jean Talon.
Salut tout le monde, ici Ron. Je suis présentement en compagnie de Cole Caulfield.
Salut Ron.
Cole